Le capital sans les notes, livre premier, troisième section, chapitre grand 10, grand 7. La lutte pour la journée de travail normale, contre-coup de la législation anglaise sur les autres pays. Le lecteur se souvient que l'objet spécial, le but réel de la production capitaliste, c'est la production d'une plus-value, ou l'extorsion de travail extra, abstraction faite de tout changement dans le mode de production, provenant de la subordination du travail au capital. Il se souvient qu'au point de vue développé jusqu'ici, il n'y a que le travailleur indépendant, légalement émancipé, qui, en qualité de possesseur de marchandises, puisse passer contrat avec le capitaliste. Si, dans notre esquisse historique, nous avons donné un rôle important d'une part à l'industrie moderne, d'autre part au travail d'enfants et de personnes mineures physiquement et juridiquement, cette industrie n'était cependant pour nous qu'une sphère particulière, et ce travail qu'un exemple particulier de l'exploitation du travail. Cependant, sans empiéter sur les développements qui viendront plus tard, voici ce qui résulte du simple exposé des faits. Premièrement, le penchant du capital à prolonger la journée de travail sans trêve ni merci trouve d'abord à se satisfaire dans les industries révolutionnées par l'eau, la vapeur et la mécanique, dans les premières créations du mode de production moderne, telles que les filatures de coton, de laine, de lin et de soie. Les changements du mode matériel de production et les changements correspondants dans les rapports sociaux de production sont la première cause de cette transgression démesurée qui réclame ensuite, pour lui faire équilibre, l'intervention sociale, laquelle à son tour limite et règle uniformément la journée de travail avec ses temps de repos légaux. Cette intervention ne se présente donc, pendant la première moitié du XIXe siècle, que comme législation exceptionnelle. À peine avait-elle conquis ce terrain primitif du mode de production nouveau, il se trouva, sur ces entrefaites, que, non seulement beaucoup d'autres branches de production étaient entrées dans le régime de fabrique proprement dit, mais encore que des manufactures avec un genre d'exploitation plus ou moins suranné, tels que les verreries, les poteries, etc., des métiers de vieille roche tels que la boulangerie, et enfin même les travaux à l'établi, disséminés ça et là, tels que celui du cloutier, étaient tombés dans le domaine de l'exploitation capitaliste, tout aussi bien que la fabrique elle-même. La législation fut donc forcée d'effacer peu à peu son caractère exceptionnel, ou de procéder, comme en Angleterre, suivant la casuistique romaine, déclarant, d'après sa convenance, que « n'importe quelle maison où l'on travaille est une fabrique ». Factory, entre parenthèses. Secondement, l'histoire de la réglementation de la journée de travail dans quelques branches de la production et, dans les autres branches, la lutte qui dure encore au sujet de cette réglementation démontre jusqu'à l'évidence que le travailleur isolé, le travailleur en tant que vendeur libre entre guillemets de sa force de travail, succombe sans résistance possible dès que la production capitaliste a atteint un certain degré. La création d'une journée de travail normale est par conséquent le résultat d'une guerre civile longue, opiniâtre et plus ou moins dissimulée entre la classe capitaliste et la classe ouvrière. La lutte ayant commencé dans le domaine de l'industrie moderne, elle devait par conséquent être déclarée d'abord dans la patrie même de cette industrie, l'Angleterre. Les ouvriers manufacturiers anglais furent les premiers champions de la classe ouvrière moderne et leurs théoriciens furent les premiers qui attaquèrent la théorie du capital. Aussi, le philosophe manufacturier, le docteur Yure, déclare-t-il que c'est, pour la classe ouvrière anglaise, une honte ineffaçable d'avoir inscrit sur ses drapeaux, ouvrez les guillemets, l'esclavage des lois de fabrique, fermez les guillemets, tandis que le capital combattait, virilement, pour, ouvrez les guillemets, la liberté pleine et entière du travail, fermez les guillemets. La France marche à pas lents sur les traces de l'Angleterre. Il lui faut la révolution de février, 1848 entre parenthèses, pour enfanter la loi des 12 heures. Bien plus défectueuse que son original anglais. Toutefois, la méthode révolutionnaire française a aussi ses avantages particuliers. Elle dicte du même coup à tous les ateliers et à toutes les fabriques, sans distinction, une même limite de la journée de travail. Tandis que la législation anglaise, cédant malgré elle à la pression des circonstances, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, prend toujours le meilleur chemin pour faire éclore toute une nichée de difficultés juridiques. D'autre part, la loi française proclame, au nom des principes, ce qui n'est conquis en Angleterre qu'au nom des enfants, des mineurs et des femmes, et n'a été réclamé que depuis peu de temps à titre de droit universel. Dans les États-Unis du nord de l'Amérique, toute velléité d'indépendance de la part des ouvriers est restée paralysée aussi longtemps que l'esclavage souillait une partie du sol de la République. Le travail sous peau blanche ne peut s'émanciper, là où le travail sous peau noire est stigmatisé et flétri. Mais la mort de l'esclavage fit éclore immédiatement une vie nouvelle. Le premier fruit de la guerre fut l'agitation des 8 heures, qui courut avec les bottes de 7 lieues de la locomotive de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu'en Californie. Le Congrès général des ouvriers à Baltimore, 16 août 1866 entre parenthèses, fit la déclaration suivante. Ouvrez les guillemets. Le premier et le plus grand besoin du présent pour délivrer le travail de ce pays de l'esclavage capitaliste est la promulgation d'une loi d'après laquelle la journée de travail doit se composer de 8 heures dans tous les États de l'Union américaine. Nous sommes décidés à mettre en œuvre toutes nos forces jusqu'à ce que ce glorieux résultat soit atteint. Fermez les guillemets. En même temps, ouvrez la parenthèse, au commencement de septembre 1866, fermez la parenthèse, le congrès de l'Association internationale des travailleurs à Genève, sur la proposition du Conseil général de Londres, prenait une décision semblable. Ouvrez les guillemets. Nous déclarons que la limitation de la journée de travail est la condition préalable sans laquelle tous les efforts en vue de l'émancipation doivent échouer. Nous proposons 8 heures pour limite légale de la journée de travail. Fermez les guillemets. C'est ainsi que le mouvement de la classe ouvrière, né spontanément des deux côtés de l'Atlantique, des rapports mêmes de la production, sanctionne les paroles de l'inspecteur de fabrique anglais R.J. Saunders, ouvrez les guillemets. Il est impossible de faire un pas vers la réforme de la société avec quelque espoir de réussite si la journée de travail n'est pas d'abord limitée et si la limitation prescrite n'est pas strictement et obligatoirement observée. Fermez les guillemets. Notre travailleur, il faut l'avouer, sort de la serre chaude de la production autrement qu'il n'y est entré. Il s'était présenté sur le marché comme possesseur de la marchandise « force de travail » entre guillemets, vis-à-vis de possesseurs d'autres marchandises. Marchand en face de marchand. Le contrat par lequel il vendait sa force de travail semblait résulter d'un accord entre deux volontés libres, celle du vendeur et celle de l'acheteur. L'affaire une fois conclue, il se découvre qu'il n'était point un agent libre, entre guillemets, que le temps pour lequel il lui est permis de vendre sa force de travail est le temps pour lequel il est forcé de la vendre. Et qu'en réalité, le vampire qui le suce ne le lâche point tant qu'il lui reste un muscle, un nerf, une goutte de sang à exploiter. Pour se défendre contre, ouvrez les guillemets, le serpent de leur tourment, fermez les guillemets, il faut que les ouvriers ne fassent plus qu'une tête et qu'un cœur, que par un grand effort collectif, par une pression de classe, ils dressent une barrière infranchissable, un obstacle social qui leur interdise de se vendre au capital par « contrat libre » entre guillemets, eux et leur progéniture, jusqu'à l'esclavage et la mort. Le pompeux catalogue des « droits de l'homme » entre guillemets est ainsi remplacé par une modeste « grande charte » entre guillemets qui détermine légalement la journée de travail et, ouvrez les guillemets, indique enfin clairement quand finit le temps que vend le travailleur et quand commence le temps qui lui appartient. Fermez les guillemets. Quantum mutatus ab illo.